Tickling your boss's hand is not appropriate. Shaking it is. Eating a bucket of KFC at your desk is not appropriate. Eating the new KFC lunch meal deal is. It's a Twister wrap, crisps and drink from $5.49. Workplace appropriate for when finger licking is not. Weekdays until 3 p.m. in-store at participating restaurants only. See kfc.co.uk for full T's and C's.
On est dans une société où le mariage a, la question du mariage et du couple aussi a énormément évolué en quelques décennies. Et ça, c'est une réalité. Quand la base, elle est saine, où les gens se sont mariés pour les bonnes raisons, même s'il y a une difficulté de couple, ça va tenir. Parce que le sol, qu'il est solide, on peut se poser dessus. Aujourd'hui, il y a des personnes, je porte pas de jugement, mais qui restent des années ensemble avant de se marier, et qu'on n'a même pas posé des questions fondamentales. Et ça, c'est problématique. Ou qu'on n'a pas été au fond d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, on ne se marie pas pour fonder une famille. Même si ça peut être une des intentions, bien évidemment. Mais on se marie avant tout pour satisfaire mon ego.
Ma question, c'est comment on fait pour combiner les deux et avoir un mariage heureux en 2022, c'est-à-dire un mariage où on se retrouve soi, on a choisi quelqu'un qui nous correspond, et en même temps, on a remis Allah au centre de tout, et on a bien conscience qu'on se marie pour les bonnes raisons. C'est possible ? Et si oui, comment on fait ?
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Si vous êtes célibataire, cet épisode a été préparé pour vous. Si vous êtes marié, restez avec nous, car on parle aussi de vous. Cette introduction sera très courte, parce que je n'ai qu'une envie, c'est de vous laisser profiter de chaque propos, chaque conseil, chaque exemple de mon invité. Et croyez-moi, elle en a des choses à nous raconter. Farida Kassed est psychologue et thérapeute de couple depuis 18 ans. Elle a vu la notion du couple évoluer, elle a entendu, conseillé, accompagner des couples mariés qui étaient pour certains en grande difficulté. Son expérience nous permet d'en apprendre considérablement et de répondre à des questions fondamentales telles que comment le choix du conjoint détermine-t-il l'après-mariage ? Pourquoi est-il nécessaire d'être en totale sincérité avec qui l'on est avant d'aller chercher une quelconque honnêteté chez l'être aimé ? Quelles sont les questions déterminantes à se poser et la démarche à avoir pour veiller à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée notre choix ? J'en oublie énormément parce que tout est passionnant. Cet épisode est à partager sans aucune modération, tant il est, à mon humble avis, d'une grande utilité. Sans plus tarder, je vous laisse donc avec mon invité et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Farida, comment vas-tu ?
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Medina, ça va très bien, alhamdulillah, et toi ?
Ça va bien. Je suis très contente de te recevoir. J'ai parlé de toi, mes amis, Farida, sache-le. J'aurais dit, je suis très contente. Aujourd'hui, je vais parler à une personne qui a beaucoup d'expérience dans le domaine du mariage, de la thérapie de couple. Et je pense que l'expérience, le recul, on en a peu, en fait, dans la manière d'aborder le mariage de façon saine et d'une manière qui satisfait Allah et qui en même temps est adaptée à notre société. Donc je te remercie vraiment beaucoup Farida d'avoir accepté mon invitation.
Ben, c'est un plaisir partagé en espérant que ça puisse profiter aux personnes qui nous écouteront, Inch'Allah.
Inch'Allah. Ben, justement Farida, en fait je voulais qu'on reprenne certains points qu'on avait abordés quand on a préparé l'interview, parce que pour les personnes qui ne le savent pas, moi j'aime bien donner un peu d'éléments de coulisses aux auditeurs et aux auditrices. Et avec Farida, on s'est parlé quelques instants pour préparer l'interview. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'avais proposé différents sujets à Farida, et elle m'a exprimé, tu m'as exprimé du coup assez clairement l'importance pour toi de parler de la préparation du mariage et notamment du choix de conjoint. Et le sujet, c'est qu'en fait, tu n'es pas la première à me faire part de cela. J'ai une autre personne dans mon entourage qui célèbre des mariages, etc., et qui m'avait dit, Marina, si on enregistre ensemble, il faut absolument que l'on parle du choix du conjoint. Et je me suis dit, mais c'est quoi le sujet avec ce thème-là? Pourquoi c'est si crucial? J'aimerais savoir, Farida, qu'est-ce qui fait que le choix du conjoint ou de la conjointe soit si déterminant, important dans la réussite d'un mariage?
C'est comme pour chaque étape de notre vie, finalement. On se rend compte que quand on prépare quelque chose, on a plus de probabilités de réussir. Même si, bien évidemment, le résultat, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu prépares un examen, que ça soit un examen de conduite ou un examen, une évaluation en mathématiques, en histoire, peu importe, si t'as passé du temps, t'as pris du temps pour réfléchir, pour réviser, pour éventuellement être accompagné, t'as une plus grande probabilité de réussir ce que tu vas entreprendre. En revanche, si t'as pas pris suffisamment de temps d'étudier la question, tu vas arriver le jour J avec énormément de surprises, et pas que des bonnes surprises, surtout beaucoup de mauvaises surprises. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Surtout, on est dans une société où la question du mariage a et du couple aussi, a énormément évolué en quelques décennies. Et ça, c'est une réalité. Dans toutes les sociétés, que ce soit les sociétés occidentales ou les sociétés pseudo-musulmanes ou arabo-musulmanes, c'est une question qui a évolué. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'est absolument pas préparé à cette mutation, à cette question du mariage. Et du coup, on se retrouve après, malheureusement, avec beaucoup d'incompréhension, beaucoup de divorces dans notre communauté, parce que j'ai pas de chiffres concernant les divorces dans notre communauté, mais à mon avis, ils doivent être aussi nombreux que ceux qui sont hors de la communauté. Donc aujourd'hui, c'est un mariage sur deux qui se solde par un divorce en région parisienne et un sur trois dans toute la France. Donc il faut absolument se poser, se préparer, se poser les bonnes questions avant de pouvoir s'engager dans cette voie-là qui est très compliqué aujourd'hui, c'est une réalité. Parce qu'avant, la transmission, elle se faisait beaucoup via nos parents, etc. Il n'y avait pas, entre guillemets, de la génération de nos parents ou de nos grands-parents, de variables parasites. C'était la maison, éventuellement l'école. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de livres parce que les personnes étaient très peu instruites, etc. Et aujourd'hui, il y a tellement d'autres variables qui rentrent en ligne de compte quand on se marie, qu'aujourd'hui, on se retrouve totalement perturbé vers ce flux ce flux d'informations, parce que il y a une contradiction par rapport à la société dans laquelle on a grandi, on vit nos traditions et des fois la religion. C'est pour ça qu'aujourd'hui le cadre, il est beaucoup plus complexe que de la génération peut-être précédente où il y avait la maison, la tradition, point barre. Aujourd'hui, c'est pas tout le cas.
Mais c'est vrai que c'est ce que tu disais. Tu me disais, je sais pas si c'était mieux avant, mais en tout cas, c'était plus simple. Enfin, non, tu m'as dit c'était plus clair. C'était pas forcément plus simple, mais c'était plus clair. C'était ça le terme, et c'est important. Dans le sens où tu sais où tu vas, il y a peu de variables. Mais là, effectivement, il y a des variables. Il y a des portes de sortie là qui clignotent de partout, parce que les femmes maintenant, elles ont une autonomie financière, hein, ce qui fait que parfois, le choix de partir, il est quand même plus simple que à l'époque de nos mamans qui avaient des familles nombreuses. Parfois, avec un seul salaire, elle ne travaillait pas. Donc, les portes de sortie et les possibilités de sortir du mariage, ça me nuisait. Et puis même les tentations étaient moindres. Mais du coup, là où je te rejoins, c'est que tu as raison quand tu dis que quand tu prépares un examen, c'est toujours mieux, dans le sens où ne serait-ce que tu es moins stressé, en fait. Tu vois, tu arrives avec plus de confiance, ne serait-ce que ça. Tu sais pas quel sera le résultat, mais au moins tu te dis non, mais j'ai mis les chances de mon côté. Donc, tu as un espèce d'apaisement qui est quand même plus agréable, je pense, quand tu commences ta vie maritale ou quand tu commences ton examen. Mon deuxième sujet, c'est pourquoi c'est aussi crucial de prendre le temps de bien choisir son conjoint, parce que se préparer au mariage, tu as été très clair là-dessus, mais pourquoi c'est si crucial de bien prendre le temps de choisir son conjoint ou sa conjointe?
Parce que le choix du conjoint va déterminer l'après-mariage. si tu te poses pas avant le mariage, déjà en commençant avant tout par la connaissance de soi. Tu dois faire les choses par étapes. Si on va les mettre de manière chronologique, on va les faire de manière chronologique, pardon. D'abord, tu te poses avec toi-même et tu te dis qui je suis, sans forcément aller faire 10 ans de psychanalyse. C'est pas l'objectif, mais en te posant avec tes qualités, avec tes défauts, sans te mentir à toi-même. C'est un exercice que je propose. Vous prenez chacun les feuilles blanches, surtout pour ceux et celles qui sont pas mariés. Vous mettez d'un côté vos qualités, d'un côté vos défauts. On a tous ça. On n'est pas des anges. Moi, la première. Si vous avez du mal pour la partie défaut, parce qu'en général, c'est celle qui est peut-être la plus compliquée, vous demandez à votre entourage. Des gens vraiment qui vous connaissent et qui veulent votre bien et qui sont sincères avec vous. Vous leur posez la question. Franchement, dis-moi qui je suis, quels sont un peu mes défauts, les points qui nécessitent des améliorations, etc. Il n'y a pas de honte, on a tous des défauts. Donc déjà, si on se pose avec soi-même, on se dit, voilà, je suis comme ça. Ça va m'aider à savoir, mais quelle est la personne qui me conviendrait mieux pour le mariage? Au-delà des critères religieux, quelle est la personne qui me conviendra le mieux? Parce qu'on se marie pas qu'avec un musulman. La religion, ça suffit pas, même si les personnes, elles sont musulmanes, pratiquantes, pieuses, etc. La religion ne suffit pas. Dans le sens, on va pas prier, jeûner 24 sur 24. Le mariage, c'est bien plus que ça. Ça fait partie, bien évidemment, de cette réalité-là conjugale. Elle est fondamentale et nécessaire, bien évidemment. Je la minimise pas, loin de là. Mais il y a aussi la personnalité. C'est qui je suis, avec mes qualités, mes défauts. Qu'est-ce que j'ai envie chez l'autre? Qu'est-ce que je peux accepter chez l'autre? On peut pas tout accepter chez l'autre. Je suis désolée, c'est une réalité. C'est pas une question de faiblesse. C'est une question d'humilité. Il y a des femmes qui pourront absolument pas être avec un homme qui est colérique, avec un homme qui est pas du tout organisé, avec un homme qui ne range absolument pas ses affaires, avec un homme qui ne travaille pas. Peu importe, il y a des milliers d'exemples. Mais c'est à moi de voir qu'est-ce que je peux réellement accepter ou pas chez l'autre en toute sincérité. Et ça, c'est fondamental. Il y a cette question-là et il y a aussi la question « Pourquoi je me marie ?» Et ça, cette question-là, pour moi, elle est fondamentale. Quand je fais des thérapies de couple, je demande toujours aux personnes comment elles se sont rencontrées, dans quel cadre et pourquoi elles se sont mariées. Et beaucoup d'entre elles me regardent comme si je posais une question stupide. Et mais ben parce que je l'aime. Oui, mais l'amour, ça suffit pas. Ça suffit pas, l'amour.
Je suis obligée de t'interrompre là, Farida, parce que tu as dit
beaucoup de choses
passionnantes. Excuse-moi. Et alors, je vous avais dit qu'on était sur une invitée pépite parce qu'elle a couvert 4-5 de mes questions. Elle est comme ça, Farida. Elle arrive, elle répond à mes questions alors que je les ai même pas posées. On aime beaucoup, c'est parfait. Machallah. Écoute, Farida, de ce que tu as dit, j'aimerais déjà qu'on s'arrête absolument sur la connaissance de soi. Parce que ça, moi, ça allait être une de mes questions fondamentales. Tu as raison, parce que ça fait partie des questions chronologiques. Avant d'aller chercher l'autre, il faut aller regarder à l'intérieur de soi. Parce que de toute façon, l'un et l'autre sont liés, en fait. Pour chercher son bon alter ego ou son bon partenaire, bah, il faut savoir comment toi tu joues, en fait. Sinon, il est bien dans la vraie vie, mais si ça fit pas avec ce que moi je suis, on a un problème. Donc tu as raison de recommencer par la connaissance de soi. Je trouve ça très important d'en parler parce que on entend beaucoup, faut apprendre à se connaître, mais la réalité c'est que c'est super dur d'apprendre à se connaître parce que pour la plupart d'entre nous, on porte des masques depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans pour se faire accepter. Et donc du coup, avoir une conversation avec soi-même, c'est hyper compliqué. Bah, et parfois, ça revient vraiment à parler à un inconnu. On n'a pas accès à soi-même. Donc, je te remercie d'avoir simplifié moi mes questionnements en répondant que ça passe déjà par se dire quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts et qu'est-ce que j'attends de l'autre. Qu'est-ce que je peux ou je ne peux pas supporter. Est-ce qu'il y a d'autres choses d'autres questions à se poser, d'autres points à aborder pour avoir vraiment une connaissance précise de soi? Parce que moi, je trouve que parfois, on a abordé ça y est, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts, mais est-ce qu'on a besoin de se connaître plus avant de se projeter dans le mariage? Et si oui, comment on fait concrètement? On doit se faire accompagner, on lit des bouquins, t'as une démarche précise?
Après, déjà, aller en profondeur sur cette connaissance de soi, comme tu l'as si bien dit, avec les qualités, les défauts, sans se mentir à soi-même, ça, j'y tiens vraiment. parce que il y a beaucoup, comme tu l'as très bien dit, on est dans une société où on porte beaucoup de masques. Je crois que c'était un sociologue célèbre qui avait dit, on est dans notre société, c'est un peu comme on est dans une pièce de théâtre en quelque sorte dans la vie, parce que chacun porte des masques. C'était un sociologue de mémoire qui avait dit ça. Donc là, il faut vraiment aller à l'intérieur de soi. Mais vraiment, parce que si vous n'osez pas faire ce travail-là, la vie de couple va vous révéler réellement vos qualités et vos défauts. Et ça, c'est au bout de quelques heures de vie commune, quelques jours, la personne va être un effet miroir et vous allez vous connaître beaucoup, énormément. Mais évidemment, la vie de couple est un apprentissage aussi à la connaissance de soi, etc. Mais il y a quand même des choses à faire en avant. Donc, déjà, se poser par rapport à ça. Ensuite, s'il y a des choses qui ont été... On a tous eu de notre lot d'épreuves, on en aura toujours jusqu'à la fin. Mais si on a eu des choses qui ont peut-être été difficiles dans notre vie, des traumatismes, une relation, par un schéma parental qui a peut-être été pas très sain, des parents peut-être qui s'y disputaient à longueur de journée, où il y avait peut-être de la violence verbale, de la violence physique, voire même les deux, où il y a eu peut-être des abandons dans notre vie. On a peut-être été abandonné par un de nos parents, nos deux parents. On a peut-être vécu dans un foyer, etc. Ces éléments-là, déjà, il faut posez-les. Bon, vous le savez, mais écrivez-les sur noir sur blanc. Et posez-vous la question, est-ce que vous pensez que ça a un impact sur le regard que vous avez sur le sexe opposé? Il y a des personnes qui ont vécu des traumatismes dans leur vie et du coup qui ramènent ça jusque dans leur vie de couple, sans avoir fait un minimum un travail au préalable. Certaines patientes que j'ai, par exemple, ont une vision très, 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 très négative de l'homme. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elles ont vécu un abus quand elles étaient plus jeunes, peut-être que leur père était très difficile, peut-être que la situation du couple de ses parents a été très compliquée. On est là pour blâmer personne. C'est pas le but de blâmer les gens. C'est savoir qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie. Et quel est l'impact que ça peut avoir sur moi, tout simplement en tant qu'adulte, de manière individuelle, mais qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans ma vie de couple et aussi en tant que parent. Donc, si faut pas se voiler la face. Si on sent qu'on a les capacités, qu'on est passé au-dessus de ça, alhamdoulilah, c'est tout à fait possible. Bien évidemment, c'est pas parce qu'on a un traumatisme qu'on va rester bloqué là-dessus.
Bloqué.
Pas du tout. Mais si on sent que c'est lourd, qu'on a une vision peut-être du regard du sexe opposé qui est très lourde, on se méfie énormément, il y a beaucoup de colère à l'intérieur de nous, beaucoup de ressentis négatifs, là, je pense que c'est important de se faire accompagner avec un psychologue, vraiment un psychologue, pas un thérapeute, un psychologue, une personne qui a fait des études dans ce domaine-là et qui pourra vous accompagner, vous pourrez avoir un espace, un temps de parole pour déverser dans un premier temps ce que vous avez et pour vous aider à comprendre ce que vous avez vécu pour pouvoir mieux avancer par la suite. Si vous ne prenez pas ce temps-là, si vous ne vous accordez pas cet espace-là, ça risque d'avoir des conséquences par la suite. Il y a des personnes qui ont très bien géré, qui n'ont pas besoin de cet accompagnement-là. Je ne dis pas que c'est quelque chose de systématique, non. Il y a des personnes qui ont fait qui ont eu cette capacité-là d'introspection, etc.
Oui.
Tant mieux.
Et de sincérité envers eux-mêmes. Tu vois, parce qu'il y a l'introspection, mais j'ai quand même l'impression, en fait, j'ai quand même le sentiment que tout vient aussi de là, c'est est-ce que tu sais te regarder? Parce qu'en fait, dès lors où tu as pris l'habitude de te regarder, d'être dans une introspection, mais même d'oser te regarder, il y a ça aussi, d'oser ouvrir la porte, d'oser affronter qui tu es réellement, ce que tu as vécu, ça peut vraiment t'aider à avancer plus vite. Et c'est fou parce qu'en fait, en islam, on nous prémunit vraiment hein, contre le fait de pas dire la vérité, dans le fait de cacher la vérité. Et on a l'impression que ça parle toujours des autres, de ceux qui ne croient pas, de ceux qui nient. Mais en fait, nier même son propre soi, ça a des conséquences dans nos vies et dans nos mariages, en fait.
Là, ça a des conséquences sur soi.
Déjà
avant même les autres, mais déjà parce qu'on n'est pas en paix avec soi-même. Déjà si on se ment et qu'on a voilà, c'est pas quelque chose de sain en soi, et forcément ça aura des conséquences dans une vie de couple. Mais avant tout, si on fait une démarche de mariage sincère et on sait que la finalité c'est avant tout pour Dieu, le regard porter sur cette, sur le mariage, sur l'avant, le pendant, etc., sera totalement différent parce que Dieu nous connaît très bien. Il sait quand on ment, quand on ment pas. Donc, quand on est sincère dans l'intégralité de la démarche, c'est mieux pour nous tous. Et ça sera mieux pour la paix du cœur et pour la paix du couple. Mais quand, comme il n'y a pas, et c'est souvent le cas aujourd'hui, hein, il n'y a pas cette sincérité-là. Aujourd'hui, il y a des personnes, je ne porte pas de jugement, mais qui restent des années ensemble avant de se marier et qui n'ont même pas posé des questions fondamentales. Et ça, c'est problématique. Ou qui n'ont pas été au fond d'eux-mêmes l'un comme l'autre. Alors qu'il y a des personnes, au bout de quelques semaines de rencontres, elles en savent beaucoup plus que lors d'une relation de plusieurs années. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont été sincères. Moi, je suis comme ça. Tu prends ou tu prends pas. Mmh. Et je trouve que c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus honnête par rapport à Dieu et par rapport à soi. Mais aujourd'hui, on est dans une société, malheureusement, qui est beaucoup tournée sur l'apparence et les gens ne veulent pas montrer les défauts. Moi, je m'en rappelle de quand je faisais des séminaires de préparation au mariage, je disais, soyez vous-même avec vos bons et vos mauvais côtés, on va dire. Et je me rappellerai toujours de la phrase de ce jeune homme qui venait en plus de divorcer. Il me disait, mais si je me dévoile tel que je suis, la femme, elle va partir en courant. Et je lui avais dit, mais il vaut mieux qu'elle parte en courant avant le mariage plutôt qu'après le mariage. Au moins, il y a mon gaspille. Bah oui. Et puis, ouais, il y a bien une autre femme qui va pas partir en courant et qui va t'accepter comme tu es. On peut pas faire à tout le monde.
Et puis même, enfin, s'il y a beaucoup de personnes qui partent en courant, se dire, bah, pourquoi elles partent, du coup? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois travailler chez moi? Parce que de toute façon, on est tous des work in progress, en fait. Il y a pas de mal à se le dire. Mais effectivement, ça permet de se poser des questions et d'apporter des réponses adaptées. Je te remercie vraiment beaucoup, Farida, parce que je t'assure que t'as répondu à des questions que moi je me pose, mais que d'autres personnes autour de moi se posent, notamment le comment faire pour apprendre à se connaître soi, comment faire pour, est-ce qu'on a besoin forcément d'être accompagné ou pas? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de, je suis suivi par un thérapeute, je suis par une psy, en fait, on sait pas là où c'est nécessaire et quand ça l'est pas. Et je te remercie parce que t'as aussi répondu à ces questions-là. J'aimerais qu'on aborde la question de la compatibilité, t'en as un peu parlé, mais pour moi, c'est fondamental aussi parce que, mais t'as très bien répondu sur le fait que, en fait, la religiosité seule ne suffit pas. Et je suis pas en train de parler d'une religiosité de façade, hein, d'une religiosité où vraiment la personne, elle a un bon comportement, elle chemine religieusement, c'est très bien parce que ça va nous faire grandir. Mais de ce que tu dis, la compatibilité, c'est fondamental. Et ça, moi, je l'entends. Mais ma question, c'est comment on fait pour pas être trop, en fait, à quel moment on sait que on vise juste dans son exigence au niveau de la compatibilité et à quel moment on est un peu trop tatillon. Je vais prendre un cas concret, à savoir le mien. Moi, je sais que, par exemple, moi, j'ai quand même besoin de quelqu'un qui a de la conversation, quelqu'un qui est un peu curieux, et j'ai des copines qui vont me dire, mais ça, maintenant, c'est nul comme critère, en fait, si vraiment t'as besoin de parler, appelle tes copines, tu vois, mais te dis pas à chaque fois, faut que je trouve quelqu'un avec qui ça va être fluide dans les échanges parce que potentiellement, tu vas te galérer. C'est vrai ou pas?
Je suis pas forcément d'accord avec ce que disent tes amis, pour être honnête avec toi. Je pense que, d'accord, il faut la partie religiosité. Après, mais même par rapport à ça, il suffit pas juste d'avoir une personne qui prie, qui jeûne, etc. Il faut même que la vision de la religion soit identique, parce que la perception de la religion n'est pas la même. Certains, encore une fois, je porte absolument pas de jugement. Certains vont peut-être être très exigeants sur les détails, pas sur la spiritualité, et inversement. Donc voilà, on a tous une conception de la religion. Il faut que celle de mon partenaire, elle soit un minimum, voire un maximum compatible avec la mienne. Ça ne veut pas dire qu'elle le sera à 100%, parce que là, on vit pas dans le monde des bisounours, hein. C'est le prince charmant, ça n'existe pas, faut pas rêver.
Mais qui a côté.
Voilà, non, je suis désolée, je vous ai cassé le tête certaine, non, mais je rigole. Mais voilà, il faut qu'il y ait un minimum de vision, au niveau de la religion, qui soit commune. Si certaines personnes font partie d'une catégorie religieuse, entre guillemets, il faut que l'autre y adhère, parce que sinon, au quotidien, ça va être infernal. Alors, je vous raconte même pas quand il y aura l'éducation des enfants. Il n'y a pas que deux adultes, ça, c'est qu'après, on se projette sur une vie de famille. Donc, il n'y a pas... faut voir ça aussi, le mariage, c'est une question de court, moyen et très, 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 très long terme. Donc voilà. Après, il faut que je me pose. Tout à l'heure, on parlait de la connaissance de soi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Si c'est important pour moi d'échanger, si c'est important pour moi d'avoir des débats intellectuels, samanimes, philosophiques, religieux, politiques, je sais pas. Ça veut pas dire que la personne elle doit être avoir les mêmes forcément centres d'intérêt que toi. Ça c'est parce que ça sera pas tout le temps possible, mais qui est quand même un élan là intellectuel qui est important pour toi. J'estime pour ma part que l'autre doit l'avoir, parce que sinon vous allez faire quoi dans la journée? D'accord, prier, je laisse, ça a duré combien de temps? Il faut que vous ayez aussi une vision commune. Et que ça veut pas dire avoir les mêmes idées politiques, ou c'est pas ça, mais qui est, si c'est important pour toi d'échanger intellectuellement, oh, ben non, tu vas peut-être pas appeler tes copines tout le temps, parce qu'elles auront leur vie, elles seront pas disponibles. À un moment donné, t'as envie de partager beaucoup de choses avec ton mari. Et sinon, tu vas partager quoi? Je pense que être à peu près du même niveau intellectuel ou avoir des échanges qui sont dynamiques, qui vous élèvent. Pour moi, c'est fondamental. C'est important. En tout cas, pour moi, ça l'est personnellement. Mais pour toi, si ça l'est en tant que personne et que ça fait partie de ton identité, etc., je pense que c'est important que l'autre, il est. Après, pour d'autres personnes, avoir des échanges avec leur mari, c'est peut-être pas important, parce que déjà, elles pourraient peut-être qu'au niveau intellectuel, elles ont, c'est pas un besoin pour elles, c'est, encore une fois, sans dénigrer personne, hein. Dans ce cas-là, elles vont pas rechercher cela chez l'autre. Mais si pour toi, c'est quelque chose d'important d'échanger, d'aller au musée, de lire des livres, peu importe les domaines, ben, je pense que c'est important d'avoir une personne qui ait quand même cet élan-là intellectuel. Sinon, tu vas t'ennuyer, hein. Vraiment, ça va être...
Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, et vraiment, je te remercie parce que je trouve que ça donne des éléments de réponse pour toutes les personnes qui souhaitent se marier, parce que de ce que je comprends, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, il faut se connaître bien, enfin, faut être au plus proche de sa personnalité et de voir ce qui fait de nous ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'effectivement, t'as pas besoin de quelqu'un, t'as pas besoin de ton double, mais s'il y a un trop gros écart dans vos personnalités, il risque d'avoir un sujet, en fait. Et il faut pas s'excuser d'avoir un type de personnalité, parce que de toute façon, Allah, il nous a créé ainsi. Si toi, tu es quelqu'un qui est stimulé intellectuellement en permanence par plein de choses, si tu as quelqu'un qui est en face, lui, il est pas dans cette même dynamique, il est vraiment même aux antipodes, c'est compliqué. Par contre, peut-être qu'il aura d'autres choses à apporter, on sait pas. Hein, mais en tout cas, je pense qu'il faut se connaître. Et après, il faut voir dans quelle mesure c'est important pour toi ou non, en fait. Et en fonction, faire ses choix. C'est ça?
Et exactement. C'est, encore une fois, on part de la base, la connaissance de soi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Ça ne sera pas la même chose que pour ma copine. Hein. Chacune, on a nos besoins, nos attentes, et c'est différent en fonction d'une personne et d'une autre. Et ça, faut le respecter, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce qui est important pour moi, je me pose, qu'est-ce qu'elle met sur papier, je réfléchis, qu'est-ce qui est important. C'est pour ça que vous pouvez vous dire qu'est-ce que vous faites dans une semaine, où vous passez votre temps, et ça vous pourra vous en dire plus sur ce qui est important pour vous. Et dans ce cas-là, ouais, être quand même en, enfin, se dire que la personne qu'on recherche, avec qui on a envie de se marier, de se projeter, elle a quand même des, tu parlais de compatibilité tout à l'heure, c'est important. S'il n'y a pas un minimum de compatibilité spirituelle, intellectuelle, physique, émotionnelle, on va droit dans le mur. Mais vraiment, mais même si les personnes, elles ont les mêmes bases au niveau spirituel, ça ne suffira pas. C'est une réalité. Et moi, je reçois dans mon cabinet, allez, 99% de musulmans, 95% de musulmans pratiquants, il y a rarement des personnes qui sont venues pour des problèmes de religion. Mais même pas peut-être 1 ou 2%. Mais je vois tes yeux qui s'écarquillent. C'est une réalité. J'ai très, parce que déjà, je suis pas théologienne, donc ça sera pas j'aurai pas les compétences si vraiment faut aller dans, aux profondeurs au niveau religieux, même si bien évidemment, là, j'ai les bases. Mais j'ai très peu de personnes qui viennent pour des problèmes de religion.
Ouais, mais est-ce que les deux sont pas un peu liés, Farida? Parce qu'en vrai, parfois aussi, je sais pas, hein, mais peut-être que, je sais pas trop comment dire ça, mais parfois remettre ce qu'on appelle l'église au milieu du village, ou remettre la religion au sein du couple, ça permet aussi parfois de réparer, de soigner des difficultés que tu peux avoir et qui sont pas liées à la religion, non?
Bien évidemment. Il faut que la religion, elle soit centrale. Ça peut même aider à résoudre des problèmes, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que la religion. C'est triste à dire. C'est que, bah, comme tu l'as si bien dit, on a une personnalité avec des besoins, des attentes, des envies, etc. Et ça, ça doit être pris en compte. Parce que sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, à la prière du vendredi, on va dire que toutes les personnes sont pieuses. Elles sont sorties de la prière du vendredi. On va dire qu'il y a 100 hommes et 100 femmes. Les 100 hommes sont célibataires, les 100 femmes sont célibataires. Ça veut dire que tu pourras faire 100 couples heureux. C'est absolument pas. Alors là, même si tu arrives à faire un couple, ce serait déjà pas mal, heureux. Parce qu'il faut faire le couple, mais après, il faut que le couple y dure. Déjà, le couple, aujourd'hui, créer un couple, c'est difficile. Enfin, qu'un couple se mette en œuvre, se crée, se marie et que se forme. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est compliqué. Alors, qui dure, c'est encore une autre histoire.
Mais ça, c'est lié à la réalité du couple ou c'est lié au fait que, pardonnez-moi l'expression, on soit devenu un peu relou et que, ouais, mais non, lui, il a pas ça. Ouais, mais non, bah, lui, en plus, physiquement, lui, il me plaît pas. Ah, mais non, elle non plus. Elle a pas ci, elle a pas ça. Ah, bah, du coup, ça fait un couple sur 100 et on se dit, waouh, youpi, c'est trop bien. C'est normal, en fait, de créer si peu de couples ou c'est parce que on a trop changé et que on devrait faire un peu plus d'efforts, en gros?
Alors, c'est pas les hommes et les femmes célibataires qui manquent. Malheureusement, c'est le célibat. On en connaît tous autour de nous des personnes qui souhaitent se marier. La réalité aujourd'hui, c'est que les gens sont devenus très exigeants. Ça, par contre, c'est une réalité. On va pas se voiler la face. Et aujourd'hui, comme on parlait tout à l'heure de l'évolution de la notion de couple, elle est au cœur même dans le choix du conjoint. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va chercher un partenaire qui, avant tout, va nous satisfaire personnellement. Donc la partie financière, etc. Elle est loin derrière. C'est pas pour ça qu'on se marie aujourd'hui. On se marie avant tout pour satisfaire notre nefs, notre ego. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens sont très exigeants sur le choix du conjoint. Auparavant, on se mariait pour fonder une famille. Et il y avait pas d'autres. C'était ça. L'intention des gens, avec des, entre guillemets, des rôles très bien partagés, bien délimités. La femme à l'intérieur, l'homme à l'extérieur, il ramène l'argent, la femme, elle élève les enfants. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'était comme ça. Quelles que soient les sociétés, musulmanes ou occidentales.
C'était plus clair. C'est pas bien ou pas bien, mais en tout cas, c'était plus défini, c'était plus clair, en fait. Il y a plus de clarté.
Exactement. Personne n'allait dans le territoire de l'un ou de l'autre. Ça, c'était vraiment une limite infranchissable. Ça a duré comme ça pendant des années. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, l'homme devient une femme, la femme devient un homme. C'est une réalité aujourd'hui. Du coup, les frontières, elles ont complètement sauté, si je peux me permettre de parler comme ça. Et aujourd'hui, on se marie pas pour fonder une famille. Même si ça peut être une des intentions, bien évidemment.
Mais on se marie
avant tout,
c'est rarement la première,
pour satisfaire mon ego. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Non, c'est pas bon. Et c'est pour ça que les couples ne marchent pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le mariage, il est à l'image de notre société. Avant, les sociétés, c'était avant tout, on se mariait pour fonder une famille. La famille était au centre de tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est au centre de tout? C'est mon ego. C'est moi. Et on est dans une société très individualiste. Que ça soit en Occident ou dans les pays pseudo-musulmans, c'est pareil. C'est la même chose. Donc,
est-ce qu'on peut s'arrêter sur le fait que le couple, qui est quand même censé être une entité où on se mélange, est devenu un couple où, en fait, t'as vraiment coupé la poire en deux. C'est juste ces deux bouts de poire là qui se sont rencontrés. Mais en fait, ça forme jamais un tout. C'est ça que tu dis, en fait. C'est je cherche mon autre moitié de poire, en fait. Mais j'ai pas envie de former un fruit en globalité, en fait.
T'as bien résumé les choses. C'est que la notion de couple aujourd'hui, elle est différente parce que finalement, je veux avant tout garder mon bien-être et je suis pas prête à faire certains efforts pour préserver la notion de couple et encore moins la notion de famille. Comme l'ego a pris une place très importante.
Mais ma question, du coup, c'est comment on fait? Parce que, en fait, je pense profondément que, donc, des gens célibataires en a plein, ça, c'est une réalité, c'est en fait, on l'a dit toutes les deux. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient, qui aimeraient se marier, sincèrement. Mais c'est juste que comme, bah, effectivement, l'ego prend beaucoup de place, on est dans une société où tout ce qu'on vit est à contre-courant de la notion même du couple, hein, à savoir des concessions, à savoir du travail, à savoir de la remise en question, de la prise de responsabilité. Ma question, c'est comment on fait pour combiner les deux et avoir un mariage qui heureux en 2022, c'est-à-dire un mariage où on se retrouve soi, on a choisi quelqu'un qui nous correspond et en même temps, on a remis Allah au centre de tout et on a bien conscience qu'on se marie pour les bonnes raisons. C'est possible ? Et si oui, comment on fait ?
C'est possible parce que, alhamdoulilah, il y a des couples qui sont épanouis et qui se sont mariés pour les bonnes raisons. Donc, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est se questionner sur l'intention de mariage. Pourquoi je me marie ? Est-ce que je me marie parce que c'est un acte d'adoration et je me marie pour plaire à Dieu, ou est-ce que je me marie parce que mes parents me mettent de la pression, parce que j'ai envie de fuir le quotidien familial, parce que financièrement j'ai envie de me faire entretenir, parce que je suis pas bien dans ma vie et j'ai besoin d'un pansement. Toutes ces questions-là, déjà, il faut se les poser. Pourquoi je me marie ? Est-ce que c'est vraiment... Ça fait partie de mon cheminement spirituel et je me rends compte que le mariage, c'est un acte d'adoration, bien évidemment, et en même temps, c'est un djihad. Donc déjà, si j'ai l'intention pure, Dieu va me faciliter. Si je me marie parce que c'est le moment de se marier, et c'est que quand je pose la question à mes patients, bah j'étais en âge de me marier, elle était là, bah voilà. Certains, ils vous disent ça en toute sincérité et d'autres, vous leur posez la question. Ils me regardent, ils me disent, c'est une très bonne question et je connais pas la réponse. Oh, et je vous garde.
Devant son épouse.
Non, pas devant son époux, ouais, parce que la première séance, je les reçois séparément pour que les gens puissent parler librement et que je connaisse un peu tous les éléments du parcours conjugal. Mais c'est ça. Donc déjà, si on se pose la question, là, du coup, il faut remettre Dieu au centre de nos choix. Déjà, se dire que je me marie pour me rapprocher de Dieu.
Donc ça, c'est la seule bonne réponse qui vaille. Ça, c'est très important parce que une fois qu'on a posé la question de pourquoi je veux me marier, est-ce qu'il y a j'ai bien compris qu'il y avait des réponses qui étaient plus salutaires que d'autres. Avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la raison principale. Mais est-ce que se dire je veux préserver ma chasteté, je veux pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un, ça, c'est des bonnes raisons de se marier ou pas?
Bien évidemment, elles sont en lien avec notre spiritualité. Se dire je veux me préserver, c'est ce que Dieu nous demande. Être en paix, c'est ce que Dieu nous demande. Il veut pas nous voir souffrir, mais pour ça il faut respecter ce qu'il nous dit. Donc tout est lié. On peut tout mettre dans ce choix-là et le considérer comme un acte d'adoration et d'avoir une personne. Si je me connais, d'avoir une personne qui va m'apporter de la paix. Pas toujours, parce que voilà, encore une fois, ça sera pas tous les jours beau, etc. Mais d'avoir une personne qui va m'accompagner dans mon cheminement spirituel, avec qui au quotidien, je sais que il pourra me soutenir, je pourrai le soutenir. C'est ça aussi, c'est une aventure humaine. Et c'est une aventure humaine qui va me rapprocher de la finalité. Rencontrer Dieu dans les meilleures dispositions possibles. Donc ça, faut pas l'oublier. Bien sûr, tout ça, c'est compatible. Il y a aucun problème. Mais faut pas oublier la base. Et la base aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'elle n'existe pas, ça serait peut-être un peu trop violent de ma part, mais on l'oublie énormément. Et c'est pour ça que aujourd'hui les couples se cassent la figure. Désolée de parler comme ça, parce que la base, les fondations ne sont pas saines. Et ça, je le vois même au cours des thérapies de couple. Quand la base, elle est saine, où les gens se sont mariés pour les bonnes raisons, même s'il y a une difficulté de couple, ça va tenir. Parce que le sol, qu'il est solide, on peut se poser dessus. Mais je le vois vraiment. Quand les fondations, elles sont bancales. Tout ce que vous allez construire, ça va être bancal. Et du coup, à une difficulté, va falloir ramer. Et des fois, c'est quasiment impossible. Je suis pas Dieu, j'ai pas des pouvoirs, mais on le voit en thérapie de couple. Je le vois en thérapie de couple. Donc, quand la base est solide, tout ce que vous allez construire, ça va être sain. Même s'il y aura des difficultés, il y en aura des difficultés.
Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et ta métaphore, elle est très claire parce que la réalité, c'est qu'effectivement, quand tout est fragile, déjà, en fait, la moindre chose que tu poses menace de tout faire basculer. Donc, tu dois essayer de rattraper ta maison qui déjà tient pas très bien et puis après, tu dois essayer de rattraper les choses que t'as posées en plus et c'est extrêmement, Ouais, c'est extrêmement périlleux comme exercice. Mais justement, pour continuer un petit peu sur ce thème-là, parce que tu m'avais expliqué qu'effectivement, parfois tu reçois des personnes dans ton cabinet, ces gens s'aiment, hein. Ces gens s'aiment, mais ils divorcent quand même. Parce que, comme tu l'as dit, la base n'était pas là, ils ne se sont pas mariés pour les bonnes raisons. Ma question, c'est quels sont les critères, quels sont les points, les sujets qu'on doit impérativement vérifier dès lors où on veut se marier, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation. Parce qu'en fait, on en parlait avec Leïla, qui a été une de mes dernières invitées du podcast, épisode 18 et 19. Je vous mettrai les liens dans le descriptif. Et en fait, elle expliquait très justement qu'en fait, elle a... Quelque part, elle a aussi un peu choisi son mari en opposition à des couples qui ne la faisaient pas rêver. Et puis, en miroir aussi, à des couples, elle disait « Ah, ça, c'est bien », etc. Et puis, quand elle a vu des difficultés chez d'autres couples, elle a vérifié avec son futur mari « Ah, on est d'accord que toi, tu penses comme moi là-dessus, oui ou non ?» Mais par contre, les difficultés qu'elle n'avait pas vues, bah, elle n'a pas posé en fait à son mari. Ce qui fait qu'elle est rentrée dans son mariage, elle a été confrontée à la difficulté de la belle-famille, qui est quand même une difficulté assez basique, hein, quand on se forme un petit peu au mariage, on le sait que la belle famille, très souvent, c'est un sujet. Mais elle, comme elle l'avait pas vu dans son entourage, eh ben, en fait, elle a pas traité le sujet. Ma question, c'est est-ce, justement, pour pouvoir aider les gens à couvrir un maximum de sujets, est-ce que tu peux nous les énumérer, les points, les sujets à absolument vérifier avant de se marier?
Alors, déjà, avant de se marier, il faut faire la prière de consultation. Parce que on a beau vérifier les sujets que je vais évoquer dans quelques instants, si on place pas sa confiance en Dieu, ça marchera pas. Donc comme on peut connaître une personne que quand on vit avec elle, et comme ça, notre religion ne nous permet pas, donc il faut avant tout s'en remettre à celui qui connaît tout. Donc la prière de consultation, je place totalement ma confiance en Dieu en faisant les causes. Mais d'abord, je m'en remets à Dieu parce que lui, il sait ce que moi je sais pas. Donc déjà, ça, par contre, ça, c'est pas négociable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait, alors qui sont pratiquants bien évidemment, qui savent faire la prière de consultation, qui n'ont jamais fait cette prière. Pourquoi? Parce qu'ils me disent, j'avais peur de la réponse de Dieu. C'est pas moi qui invente cette phrase là. Ce sont mes patients qui me l'ont dit. Je vois ton visage qui
s'est. Ah ouais, non, mais parce que.
Mais c'est la réalité.
C'est terrible parce qu'en fait, encore une fois, tu sais, c'est ce qu'on disait. Je pense que le plus dur, des fois, c'est pas tant de se connaître, c'est d'oser se regarder. C'est pas, tu sais très bien, en fait, au fond de toi, mais oser regarder ça, parce que quand tu dis j'ai peur de la réponse, c'est que tu sens bien que la réponse, peut-être, elle sera pas ouf, quoi. Pardonne-moi l'expression. Et donc, tu te maries quand même. C'est parce qu'en fait, tu veux pas regarder. C'est pas, que tu l'as pas vu venir, en fait. C'est ça que t'es en train de dire.
Exactement. Parce que finalement, l'ego, on en revient à l'ego, a pris beaucoup de place, ou parce que, les sentiments sont très présents avant le mariage, et donc du coup après ça crée un brouillard sur les décisions. Donc c'est ça, et puisque la personne des fois en général sont des relations où il y a eu, enfin en général qui ont été assez longues, etc., avant de s'engager, d'où les sentiments qui se sont installés au fur et à mesure. Donc entre guillemets ça brouille les pistes.
Donc aussi, donc tu te dis, ah ben attends, ça va, j'ai déjà passé 2-3 ans là, je vais pas reperdre, après faut tout reprendre à zéro, le marché du célibat il est moche, je vais pas repartir là-bas, ah, non, ouais, ça va, je me suis donné là, faut que j'aille jusqu'au bout en fait.
Donc ça, c'est quand même, pour moi, c'est pas négociable. Et certains font la prière de consultation, ont vu des signes très sombres, malgré tout ont continué. Ça, c'est problématique aussi. Parce que des fois, pour certains couples, ça se passait très mal avant le mariage. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de séparation, il y avait beaucoup de violence verbale, des fois même physique, avant le mariage. C'est une réalité. Pour autant, les personnes s'engagent. Donc ça, on va pas se voiler la face. Si ça se passe mal avant le mariage, ça se passera très, 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 très mal après. Donc déjà, voilà, s'en remettre à Dieu, faire la prière de consultation, être la plus objectif possible, c'est très important. Donc pour ça, il faut maintenir une distance émotionnelle. C'est que c'est pas facile, parce qu'on est des êtres humains avec des besoins, des envies, des désirs. Mais se protéger, parce que si on se protège pas, ça va être très compliqué de mettre des limites. Donc on met une distance physique, j'y tiens, c'est très important, émotionnelle. Comme ça, on pourra avoir un regard objectif sur la situation. Ça, pour moi, c'est important. Déjà, ce qui nous appartient, c'est ça. Même si c'est pas évident, ça c'est une réalité humaine. Dieu, il sait que c'est pas évident de se retrouver avec une personne du sexe opposé, de pas avoir d'attirance. C'est humain. Dieu nous a créés comme ça. Mais essayez de vous préserver au maximum pour garder votre lucidité et aussi pour avoir la baraka. Parce que vous pouvez pas faire n'importe quoi et après demander la baraka. À un moment donné, il faut être aussi cohérent.
Faut être aligné,
exactement. Donc ça, voilà, la prière de consultation. Et après, se poser sur les questions à poser, il y en a plusieurs. Il y a déjà, on revient sur la connaissance de soi. Ce qui est important pour moi, ce que je peux accepter ou pas chez l'autre, déjà, ça, c'est important de le dire. Si, par exemple, pour moi, c'est important de travailler, j'en ai besoin, c'est comme ça, c'est pas négociable, et que l'autre ne le souhaite pas, dans ce cas-là, vaut mieux s'arrêter là. On va pas commencer à négocier sur tout. Sinon, on s'en sortira pas. Déjà, c'est important de se dire, voilà, moi, j'ai des choses qui sont importantes pour moi. Est-ce que tu les entends? Est-ce que ça te dérange pas? Déjà, ça, c'est important. On peut commencer sur soi, déjà. Au niveau individuel. Après, il y a des thèmes, comme tu l'as si bien dit. Il y a la question, par exemple, ce qui me passe, hein, pas forcément, il n'y a pas un ordre à évoquer. Il y a la question de la belle-famille. Tu l'as très bien signalé. Il y a des gros problèmes aujourd'hui sur la question de la belle-famille, même si la belle-famille, elle vit plus sous le même toit que nous, etc., parce qu'on, voilà, on a changé au niveau de la société. Mais c'est important de savoir quelle relation la personne, elle a avec sa famille respective. Qu'est-ce qu'elle attend de nous par rapport à sa famille, si éventuellement elle attend quelque chose, et nous, et réciproquement. C'est important parce qu'il y a des personnes qui ont des attentes très 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 précises sur la belle-famille, qui sont absolument pas celles de l'autre. Ça, du coup, il faut absolument éclaircir ce sujet-là. Donc la question de la belle-famille, voilà, comment tu vois la relation avec ta mère, avec ton père, à quelle fréquence, à peu près. Bien évidemment, rien n'est figé. Le couple, il évolue en fonction du temps, des circonstances, etc. Mais déjà, je pense que c'est un sujet qui est important. Si la personne, elle voit sa famille 4 fois par semaine et elle peut dire, bah, écoute, moi, c'est important qu'on va voir ma famille 4 fois par semaine. Chacun fait ce qu'il veut, je juge pas. Mais dans ce cas-là, quelque chose soit posé carte sur table. Peut-être que la personne va dire, non, moi, je peux pas m'engager là-dedans. 4 fois par semaine, c'est, moi, 1 fois par mois, ça me suffit. Je dis ça comme ça.
Non, mais ça, c'est un vrai sujet. Franchement, j'en ris. Mais parce qu'en réalité, c'est un sujet, parfois, on se dit, ouais, bon, bah, ça va, je peux faire l'effort. Mais en fait, tu te rendrais pas compte que, en fait, si toi-même, tu voyais ta famille 1 fois par semaine, c'est que tu n'es pas capable de voir ni ta famille, et encore moins, parfois, ta belle famille, plus d'une fois par semaine, en fait. Et ça, c'est des choses, parfois, on se rend pas compte, parce qu'on n'a pas acheté vérifié en soi, à quel point, bah, par exemple, on a besoin de temps pour soi. On a besoin d'être seul. C'est aucun jugement là-dessus. Mais on est comme
évidemment.
Ça.
Voilà. Il faut poser aussi des questions sur l'histoire de la personne. Après, c'est pas. Alors, vous devez pas tout. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Votre passé vous appartient. Il est entre vous et Dieu. Vous n'êtes pas obligé de raconter à l'autre ce que vous avez fait, vos péchés, etc. Ça, c'est entre vous et Dieu. Si la personne, elle commence à vous poser des questions, combien de personnes t'as connu, qu'est-ce que t'as fait, etc. Je trouve que c'est pas sain du tout. Je trouve que ça nous appartient. On a tous une histoire, on a tous fait des choses qui conviennent pas à Dieu. On ne nous sommes pas des anges, mais il y a des choses qui nous appartiennent. Après, si par exemple la personne, elle a divorcé, elle a eu une expérience de vie, je pense que c'est important pour ma part de poser la question pourquoi la personne elle a divorcé. C'est sans rentrer dans le détail des choses, mais ça vous permettra de savoir si la personne elle a réussi son divorce ou pas. Je m'explique. Si la personne, elle vous dit, bon voilà, parce que c'est important de savoir quand même la situation matrimoniale de la personne. Si la personne, elle a divorcé, bon bah vous n'allez pas le savoir le jour de la mairie quand le maire, il va énoncer ça. Je pense que c'est important de savoir. Mais si la personne, elle vous dit, oui, j'ai divorcé parce que mon ex-femme, elle était embêtante, elle était ci, elle était ça, et que lui ne se remet pas en question, bah ça, c'est problématique. Parce que lui aussi, il a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et ça, il faut pas poser la question pourquoi la personne, elle a divorcé. Je pense qu'il n'y a pas de honte. On peut tous, le divorce, ça peut être aussi une libération dans certaines situations. C'est autorisé, alhamdoulilah. Après, faut bien l'utiliser. Mais je pense que c'est important de poser des questions. Voilà. Si la personne.
Moi, je me permets. Enfin, juste de rajouter quelque chose là-dessus, c'est mon expérience personnelle, parce que enfin, je voudrais vraiment appuyer ton propos, parce que moi, pour avoir fait des moukabala avec des personnes qui sont divorcées, moi, je trouve que c'est fondamental, faut bien poser la question. C'est pas forcément la première question qu'on pose, moi, je trouve, parce que la personne, c'est une personne, avant d'être une personne divorcée, c'est une personne, donc c'est bien de s'intéresser à elle avant de dire, donc sinon, pourquoi t'as divorcé? J'aimerais savoir. Mais par contre, moi, je trouve que c'est une question qui est parfaitement légitime, et je trouve que ça en dit beaucoup sur effectivement, ça parle beaucoup au nom de la personne qui expose la situation. Parce que moi, je, dans 80% des cas, c'était elle était comme ci, elle était comme ça. Ouais, mais elle est pas facile. Et dans 80% des cas, les personnes ne se sont absolument, je dis bien absolument pas remises en question. Et ça, moi, je trouve que ça dit beaucoup, en fait. Ça dit beaucoup, à mon sens.
Je suis entièrement d'accord avec toi, parce que si la personne, elle s'est pas remise en question, comment veux-tu qu'elle avance? Il faut qu'elle apprenne des leçons de ce divorce, de cette séparation, pour qu'elle puisse ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'elle a pu, peut-être les maladresses qu'elle a pu vivre dans sa première union. C'est humain, encore une fois, mais pour ça, il faut qu'elle soit au clair avec elle-même et qu'elle mette pas un masque, parce qu'à un moment donné, ça va ressortir. Donc, poser des questions sur comme ça, le mariage, etc. Enfin, si la personne a déjà été mariée ou pas, si elle a déjà été en couple ou pas, savoir pourquoi ça a pas tenu, ça me semble important. Poser aussi la question de la conception du mariage. Qu'est-ce que représente pour elle le mariage? Qu'est-ce qu'elle attend de son partenaire? Je pense que c'est très très important. Et aussi sur la question du mariage, poser aussi la question de la polygamie. Parce que même si c'est pas autorisé en France, je vais pas rentrer dans un débat théologique, c'est pas mon intention, loin de là. C'est se dire, est-ce que la personne elle se projette aussi de faire une union, d'avoir après une seconde épouse, etc. Voilà. Comme, au moins les choses elles sont posées carte sur table, comme ça il y a pas de mauvaise surprise par la suite. On pose des choses, comme ça tu prends ou tu prends pas. Donc ça c'est peut-être les questions un peu sur la conception des choses, la conception du mariage, la situation matrimoniale de l'un et de l'autre. La question de la belle-famille, on l'a évoquée, elle est importante. La question de nos propres besoins, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que tu es dans cette même lignée-là ou pas? Comme ça, on voit si on peut avancer ensemble ou pas. La question financière, ça c'est une réalité.
J'allais y venir.
Ouais, parce que ça c'est le nerf de la guerre aussi. On va pas se mentir.
Bah, moi je pense que c'est le nerf de la guerre dès lors où souvent on n'a pas parlé de ça avant. Moi je trouve que ça devient le nerf de la guerre quand il y a beaucoup de frustration, quand je pensais que ça ça allait être temporaire, que moi j'allais l'aider un petit peu et aujourd'hui bah c'est devenu une habitude. Oui mais elle comprend pas qu'aujourd'hui c'est 2022 donc il faut bosser. Moi je trouve que c'est le nerf de la guerre dès lors où déjà on n'en a pas parlé avant et où on n'a pas détricoté son propre rapport avec l'argent. J'ai une conversation avec Citan qui fait une formation justement pour un peu travailler son rapport à l'argent. C'était passionnant et c'est là qu'on se rend compte que en fait très souvent l'argent c'est le nerf de la guerre quand c'est pas clair pour toi en fait en réalité et quand tu attribues à l'argent des fonctions qu'il n'a pas.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Déjà il faut dès le départ clarifier son propre rapport à l'argent. Il y a certes la conception religieuse aussi sur qui doit prendre en charge les dépenses ou pas. La réalité de notre société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est un point aussi qu'il faut prendre en compte. Donc je pense que tout ça, il faut que les choses elles puissent être mises au clair dès le départ, avant le mariage.
Sans jugement de la décision de l'autre en fait. Et ça c'est très important, c'est que c'est ce qu'on dit depuis le départ. On n'est pas là pour poser des avis sur les réponses des uns et des autres quand on fait une moukabala. Ça c'est un char qui le disait. Je trouve que c'est très juste. C'est pour ça que je me permets de le rappeler. On n'est pas là pour débattre de comment ça tu penses ça. Non, là, on est là pour entendre la réponse et de dire ça me va ou ça me va pas. Comme il disait, can you live with that? Ok, bah ça veut dire qu'il est comme ça. C'est ok pour toi, c'est pas ok. Oui ou non. Si c'est ok pour toi, on continue. Si c'est pas ok pour toi, ben c'est pas grave. Ce sera ok pour quelqu'un d'autre en fait.
C'est entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire l'objectif, on n'est pas là pour faire en sorte de changer la vie de l'autre, de le façonner. Parce que si on part sur ça, ouais ben on va droit dans le mur. C'est la personne elle se présente telle qu'elle est. Tu prends ou tu prends pas. Sur des points qui sont importants. Après, ça ne veut pas dire que tu auras tout ce que tu veux, parce que ça, c'est pas possible. Mais dans la globalité, il faut que vous soyez sur la même ligne. C'est important pour pouvoir aller le plus longtemps, le plus loin ensemble, tous les deux. Donc, se poser la question, est-ce qu'on fait moitié-moitié? Est-ce qu'on fait proportionnellement à nos salaires? Est-ce que c'est toi qui comptes tout payer? Peu importe. Je donne pas mon avis. C'est pas la question du jour. C'est vous posez les choses et vous dites si vous avez à peu près la même conception des choses, si vous êtes d'accord sur cet aspect-là. Tout comme le travail de la femme, est-ce que la personne elle conçoit que son épouse travaille ou pas, avec ou sans enfant. Enfin, c'est des choses qui est très important de pouvoir aborder. La question est également de l'éducation des enfants et de si Dieu, enfin si les deux personnes veulent avoir des enfants, parce que peut-être pas forcément le cas de tout le monde. Donc si les gens en veulent, si Dieu leur permet d'en avoir aussi, combien ils souhaitent en avoir. Après, ça ne veut pas dire que c'est figé, parce que des fois, on peut dire, allez, j'en veux quatre. On se marie, finalement, on dit, hop, on va s'arrêter à deux. Hein. Voilà. Mais ça, c'est la réalité de beaucoup de couples. Hein.
C'est vrai. Donc, c'est vrai.
Voilà. Donc déjà, mais à peu près, se dire, voilà, est-ce que moi, j'ai une famille nombreuse, si Dieu me le permet, bien évidemment, ou pas. Voilà. Comment je souhaite éduquer mes enfants. Après, on ne sait pas exactement comment on va faire, parce que tant qu'on n'est pas confronté à nos enfants dans les bras et à la réalité, ça ne sera pas quelque chose qu'on peut, enfin, sur lequel on peut décider tout de suite. Mais certaines personnes ont des idées bien précises que je respecte bien évidemment. Certaines veulent absolument scolariser leurs enfants dans des écoles musulmanes. Certaines veulent faire l'école à la maison. D'autres veulent quitter le pays pour une terre musulmane et éduquer leurs enfants là-dedans. Peu importe. Chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de souci. Mais au moins que les choses soient posées. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Encore une fois, rien n'est figé. On peut avancer, on peut discuter, mais au moins, on parle de ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est quand même important. L'éducation des enfants, c'est quand même, ça peut créer également des tensions dans le couple. Donc, il y a la question financière, la question de la gestion des enfants, la gestion du temps aussi. Comment la personne, quelle est sa conception des choses par rapport au temps? Est-ce qu'elle aime voyager? Est-ce que c'est plus une personne qui aime rester à la maison, casanière, ou elle aime plutôt sortir en musée, en week-end? Peu importe. Mais savoir aussi comment la personne, elle gère son temps, ça vous donnera une idée, ça vous permettra de vous projeter, sur la suite. Et en demandant, par exemple, à la personne, raconte-moi une semaine type. Une journée, ça suffit pas. Et ce mec, sans forcément à l'heure près, hein, c'est pas le but, mais qui est quand même une vision globale de la personne, de ce qui est important pour elle, pour voir si c'est à peu près, vous êtes à peu près aligné, pour reprendre ton terme précédemment, ou pas. Mais je pense que ça en dit beaucoup. Et bien évidemment, l'aspect spirituel. Je l'ai dit en dernier, mais ça devrait être bien évidemment le premier. Savoir si vous avez la même conception des choses, s'il y en a un qui fait partie d'une école ou pas. Si c'est important, par exemple, pour une personne de prendre des cours de religion, elle peut peut-être se dire c'est important aussi que l'autre en prenne. Savoir s'il y a une dynamique spirituelle dans le couple. Si, par exemple, la personne, elle prie à l'heure ou pas. Si, par exemple, pour une personne, c'est fondamental. Si elle se met avec une personne qui prie pas, ça va être compliqué. Ou par exemple, si une personne qui prie mais qui est pas toujours à l'heure, ça peut gêner éventuellement la personne. L'objectif, c'est pas tout raconter les actes d'adoration, parce qu'il y a des choses qui nous appartiennent et qui sont entre nous et Dieu, mais avoir aussi une vision un peu comme ça, sans jugement bien évidemment, de la spiritualité. Quel livre elle lit, roman spirituel ou pas, c'est voilà, et c'est important, parce que il y a pas que la religion dans un couple, il y a aussi cette tout ce qui fait que nous sommes pas que des musulmans, notre personnalité, nos besoins, nos aspirations personnelles, professionnelles, intellectuelles, et ça doit être mis en ligne de compte pour pouvoir avancer. C'est fondamental.
Ah, c'est hyper intéressant. Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. La première, c'est qu'en fait, quelque part, tu vois, les points, j'ai commencé en disant quelles sont les questions qu'on doit absolument poser, qu'est-ce qu'on doit absolument vérifier. Mais en fait, je réalise que cette petite liste-là, faut déjà la remplir soi, en fait. C'est-à-dire que, ok, vérifie ça chez la personne, mais la réalité, c'est qu'avant d'aller tambour-battant avec ta petite liste en disant à la personne, et donc toi, qu'est-ce que tu penses de ça, comment tu te projettes là-dessus, soit faire sa semaine type de soi, se dire, alors déjà, je veux combien d'enfants, moi déjà, ah oui, d'accord, pourquoi, qu'est-ce qui est important pour moi, moi je chemine comme ça, est-ce que j'aurais besoin que, qu'est-ce que je devrais dire à mon conjoint ou à la personne, au prétendant ou à la prétendante. Ça, j'ai l'impression que c'est quand même hyper important. Et la deuxième chose, le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est le sujet de l'intimité, parce que je sais que ça peut être une grande problématique à l'intérieur du couple. J'ai eu en conversation une amie qui est sexologue et thérapeute de couple. C'est un grand sujet, mais la pudeur nous invite à pas trop aborder ce sujet avant le mariage. Est-ce que il y a une solution, ou c'est vraiment c'est la surprise? Est-ce qu'il y a des questions qu'on doit aborder? Comment est-ce qu'on peut les aborder? Voilà.
Après, quand tu dis que c'est donc notre religion, elle nous exige certes la pudeur, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aborder certains sujets avant le mariage. Du moment que c'est fait dans un cadre sain, pudique. Et respectueux, avec des intentions sincères. Mais la question de la sexualité, après, ça dépend ce que tu entends par ça. Mais des fois, je pense qu'avant le mariage, il est important quand même de se poser ne serait-ce que la question de la contraception. Ça fait partie de l'intimité, même si c'est pas l'acte en lui-même, mais ça permet déjà au couple de se projeter dans quel, si le couple veut une contraception ou pas, déjà, d'une part, et savoir quelle est peut-être la mieux adaptée. Et il faut aussi se préparer pour la contraception. C'est pas le jour J, on prend un moyen de contraception, si c'est la femme qui décide de le prendre. Donc ça, c'est quand même, ça peut être aussi un moyen de parler, d'oser parler de ce sujet-là. Je pense que c'est important. Après, ça c'est plus au niveau donc gynécologique, médical, etc. Après, la question de l'acte en lui-même, c'est de se dire si par, c'est délicat, mais si par exemple les deux personnes n'ont pas eu une expérience auparavant, parce que c'est pas le cas, hein, c'est très rare que encore une fois sans jugement de ma part, que les deux personnes n'ont eu aucune relation sexuelle auparavant, que les deux, c'est assez fréquent chez les femmes, même si c'est des valeurs qui se perdent, encore une fois, sans jugement. Chez l'homme, un homme qui n'a pas eu de rapport sexuel, c'est très, très rare aujourd'hui. Ça, c'est une... ça fait presque 20 ans que j'exerce, j'ai dû en avoir 3-4, peut-être grand maximum, au vrai sens du terme, en thérapie de couple ou en thérapie individuelle. Ah, ça, par contre, c'est une réalité, je te vois écarquiller tes yeux.
Encore une fois. 20 ans, c'est long, en fait. Je me dis, ah oui, 3-4 en 20 ans. D'accord, ok.
Okay. C'est une réalité. Par contre, voilà. Okay. Après, si c'est un critère qui est important pour l'un, je pense qu'il faut évoquer du coup ce sujet-là, parce que la question, pardon, de la virginité, c'est malheureusement des valeurs qui se perdent. Mais au-delà de ça, c'est qu'est-ce qui est important pour moi. Si par exemple moi je me suis préservée et j'aimerais que mon partenaire le soit, c'est tout à fait légitime. Il y a aucun souci. Par contre, la réalité statistique, elle est là, et il y a très peu d'hommes qui sont préservés le jour J. Après, il y a des hommes qui sont pas préservés, ils attendent une femme qui vient. Après, chacun a son choix, mais après, des fois aussi, il faut être aligné et il faut être cohérent. Donc, si c'est quelque chose qui est important pour soi, parce que chacun après réagit différemment par rapport à cette question, encore une fois, je pense que c'est de la poser, c'est de se dire, est-ce que la personne, elle a déjà eu, après ça, ce genre de questions, on les pose vraiment quand on est à la fin des rencontres, c'est-à-dire quand on est vraiment, on est presque sûr de s'engager à 100%. C'est pas la première mokabala, on parle de ça, parce que c'est,
Oui, ça fait partie des derniers points.
Parce que c'est un sujet qui est très intime, qui demande quand même de la pudeur, etc. Donc, faut vraiment qu'on soit bien à l'aise avec la personne avec qui vraiment on a envie de s'engager, pour poser ce type de questions et se poser la question, est-ce que la personne, elle a eu ou pas des rapports sexuels au préalable. Ça, personnellement, je sais que des fois c'est compliqué parce que Dieu nous demande aussi de cacher nos péchés, etc. Mais bon, la réalité est que quand on a eu un rapport sexuel, et quand on n'a jamais eu, ça se voit tout de suite au moment où, entre guillemets, il y aura le premier acte sexuel. Donc ça, c'est une réalité.
En fait, l'idée, c'est que si c'est vraiment très important pour soi, ça sert à rien de faire comme si c'était pas le cas et de se dire bon ben j'aurai la surprise le jour du mariage, mais l'une des deux options pourra me déranger. Non, si ça dérange, faut le poser avant. Après, si ça dérange pas et si on part du principe que chacun ses erreurs, ça n'appartient pas à nous de enfin, en tout cas moi ça fait pas partie de mes critères de choix de conjoint. Ben, on pose pas la question. Mais je pense que pour moi, la question de l'intimité, c'est vraiment si on a des questions ou des points qui sont importants. Si par exemple, on a déjà été marié et qu'on a des velléités sur la fréquence, moi, je trouve que c'est peut-être important de le poser parce que si c'est vraiment important pour soi, il faut savoir le poser, en fait, sans se faire croire que c'est pas important alors que ça l'est, quoi.
Encore une fois, faut pas se mentir à soi-même. On en revient à la question de base sur la connaissance de soi. S'il y a des choses qui sont importantes pour moi, ou peut-être, je sais pas, si peut-être j'ai des traumatismes aussi par rapport à ça, et j'ai par rapport à l'intimité, que ça soit dans une relation de couple précédente ou auparavant, où j'ai peut-être aussi vécu un traumatisme quand j'étais plus jeune, j'ai été peut-être victime d'attouchement ou d'inceste, et j'ai peut-être peur. Que ça a un impact sur mon intimité, je pense que c'est peut-être aussi important de le partager. Si vous vous sentez en confiance avec la personne, vous n'êtes pas obligé de le faire, Il y a pas, c'est pas une obligation, mais si vous pensez que ça peut éventuellement avoir un impact, je pense que c'est peut-être après il faut se sentir bien évidemment en totale confiance avec la personne, vous pouvez évoquer ce sujet-là. Il y a des femmes qui l'évoquent avant ou même certaines l'évoquent après le mariage. D'autres peuvent être amenées à l'évoquer avant le mariage, comme ça elles sont transparentes. C'est pas une obligation, mais si vous sentez que ça peut avoir un impact, que ce traumatisme-là peut avoir un impact sur une future sexualité, ou que ça a déjà eu un impact sur une sexualité que vous avez vous-même vécue, je pense que c'est important de le dire. Mais ça, c'est plus à la fin. Quand vraiment on est à l'aise, on se dit, allez, moi, je pense m'engager à 95% avec la personne. Donc, là, je vais peut-être évoquer certains sujets en termes de la sexualité. Mais vous savez, on peut évoquer énormément de choses avec beaucoup de pudeur. Du moment que les choses, elles sont dites avec respect, on peut parler de sexualité. Il n'y a aucun souci sans que ça soit, voilà, du moment qu'on se respecte, on respecte la personne qui est en face de nous, il y a de la pudeur. Il n'y a aucun problème. Mais par contre, si on est vulgaire dans nos propos, etc., non, ça sera pas possible. Moi, en thérapie de couple, j'évoque des sujets liés à l'intimité. Il n'y a aucun souci. Parce que c'est fait avec pudeur. On peut parler de tout. Quand je vous dis de tout. Mais c'est fait avec beaucoup de respect.
Beaucoup. Et puis, il y a un goal derrière, en fait. Je pense que dès lors où on sait que faut aborder ce sujet-là pour solutionner quelque chose, il faut en parler, en fait. Mais effectivement, après, l'art et la manière sont fondamentales.
Exactement, et puis il y a pas de honte. Il y a pas de honte. Enfin, je veux dire, si notre intention, elle est sincère et que la finalité, elle est pure, elle est bonne, c'est pour dire les choses, c'est pour être en transparence, il y a aucun problème. Mais si la finalité,
je pense qu'il faut se rappeler que c'est soit pour préserver son union, si on arrive dans ton cabinet qu'on est déjà marié, soit pour se marier et ainsi obtenir la satisfaction d'Allah, ça aide aussi, je pense, à se dire, c'est pour le mieux, en fait. C'est pour le mieux.
Si la finalité, elle est saine, c'est pour avoir le cœur apaisé, pour se rapprocher du divin, il n'y a aucun problème. Après, si on parle de sexualité avec une autre intention, chacun son problème, entre guillemets. Mais parce qu'il y a des couples qui peuvent parler de sexualité, etc., mais c'est pas très, très sain. La finalité, elle est pas saine, en tout cas. Donc là, forcément, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, chacun fait comme il le souhaite. Mais je pense que c'est important d'en parler. Même la contraception, c'est important d'en parler. Et ça, des fois, le couple ne font pas n'aborde pas ce sujet-là. Et par contre, ça peut être compliqué par la suite. Donc, il faut aborder. Il n'y a pas de problème.
D'accord.
Il y a pas de gêne. Il y a de la pudeur, mais il faut poser toutes les questions qu'on souhaite, parce que le problème c'est que si on pose pas certaines questions, on se dit non mais c'est bon, je sais qu'il est comme ça, parce que il est musulman donc je sais qu'il fait comme ça. Non, parce qu'après le jour du mariage, on va se retrouver avec des surprises, mais pas très agréables.
Ouais, on sera pas sur une bonne surprise quoi. Ok. Et j'ai un dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi, même si c'est brièvement, ça me semble important. C'est la différence entre les hommes et les femmes, parce qu'en fait, à mon sens, une bonne préparation au mariage, ça passe aussi par là. C'est-à-dire que parfois, on peut rencontrer une personne, il est génial, il est super, il est parfait, et puis parfois, il a des réactions qu'on ne comprend pas. Mais en fait, c'est juste que c'est parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme, et donc forcément, il y a des sujets sur lesquels on réfléchit pas de la même manière. Pourquoi connaître et reconnaître nos différences, qu'elles soient, biologiques, psychologiques, c'est fondamental. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes pour que les gens comprennent bien le propos?
Alors, savoir que les différences existent, elles ont été créées aussi par Dieu, c'est-à-dire que les études scientifiques ont montré que ces différences-là, elles sont aussi biologiques, physiologiques. Donc, ça veut dire que c'est pas que un choix de l'éducation et etc. C'est aussi, on a été créé comme ça. Après, la société aussi a pu nous façonner d'une certaine manière, et l'éducation qu'on a pu recevoir de nos parents également. Par contre, c'est se dire qu'il existe des différences hommes-femmes, c'est important. Juste le fait de se dire qu'elles existent, ça permet de se dire que l'autre, il va pas réagir comme moi face à une situation. Et c'est pas parce que il est égoïste ou il est malveillant ou il est, c'est parce que l'autre, il est différent de moi, qui réagit aussi différemment. que ma propre personne. Parce que si on se dit, l'homme, il va réagir comme moi, et que face à certaines situations, il va pas réagir comme soi-même, ça va créer énormément de disputes de couple. Mais vraiment énormément. Donc l'autre est différent, mais complémentaire. Mais il est différent. Et si ça, on s'en rend pas compte, on ne l'accepte pas, on ne le sait pas, ça peut vraiment aboutir à des grosses tensions dans le couple. Parce que certaines femmes me disent, ou certains hommes, moi j'attendais à ce qu'elles réagissent comme ça. Je dis, non, ce n'est pas possible. Parce que vous êtes une femme, c'est un homme. Parce que vous êtes peut-être de cultures différentes aussi. Donc, on n'a pas la même conception des choses. Parce que, voilà, l'information universitaire elle a peut-être été différente. Donc, on va peut-être pas réagir de la même manière, etc. Enfin, il y a plusieurs critères, pardon, qui rentrent en ligne de compte. Et c'est important de se dire que ces différences-là sont normales. Elles font partie de la vie. Et qu'il faut les accepter. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses, encore une fois, par rapport à mes propres besoins qui sont importantes. Et donc, du coup, l'autre peut s'adapter, bien évidemment. Mais il y a des choses, c'est une réalité. Et il faut pas tenter de perdre votre temps et votre énergie à façonner l'autre. Parce que vous allez perdre que de votre temps et votre énergie et ça ne servira absolument à rien du tout. Mais vraiment, ça peut vous éviter des heures de dispute, tant mieux. Hein. Vraiment. Donc ça, c'est le premier point. Après,
juste avant d'aller sur le deuxième, je voulais juste te remercier d'insister sur, t'as dit un mot qui est très important, t'as dit on est différents, mais on est complémentaires. Moi, j'aimerais vraiment faire un épisode dédié à ce sujet-là, parce qu'en fait, c'est une chose que de réaffirmer qu'on est différents, il ne sert à rien de le nier, mais si Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint à nous marier, c'est pas pour nous embêter, en fait. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous unir avec le sexe opposé, c'est pas pour nous embêter, c'est parce que à la fin de la journée, ça va nous rendre meilleurs. Même si on ne voit pas toujours, même si c'est difficile, nos différences sont là pour aller compléter ou corriger nos manquements ou nous améliorer ou faire de nous de meilleures personnes, parce que c'est en étant de meilleurs êtres qu'Inch'Allah, on pourra atteindre le paradis. Donc, je te remercie d'avoir parlé de complémentarité, parce que pour moi, c'est fondamental et il faut qu'on puisse réconcilier ces deux genre, en fait, parce qu'on a l'impression que chacun est un peu dans son coin. Oui, mais les hommes, ils sont trop comme ça, ils sont égoïstes, ils sont comme ça. Ouais, mais les femmes, elles ont trop changé, elles sont comme ça, elles sont comme ça. Et en fait, il faut qu'on se rappelle que Allah, il nous a enjoint à nous unir et que c'est pas pour rien. Qu'Allah, il a une sagesse et qu'on comprend pas toujours sa sagesse, mais c'est pas pour autant que c'est pas sage comme décision, en fait.
Exactement, parce que comme tu l'as si bien dit, voilà, on est complémentaires. Donc l'homme, peut-être par rapport à certaines situations, on va réagir d'une certaine manière. Si la femme, elle réagissait comme lui, ça va être compliqué. Et inversement aussi. Donc, des fois, il faut les deux pour pouvoir stabiliser les choses. Et c'est important. Après, ouais, je vais te donner quelques différences comme ça qui me viennent à l'esprit. Par exemple, les hommes sont très pragmatiques, très rationnels. Des fois même on dit qu'ils ont peut-être pas d'émotion. Non, ils ont peut-être plus la tête sur les épaules entre guillemets que nous les femmes face à certaines situations où la femme peut-être qu'elle va être un peu plus émotionnelle. Et on voit bien par exemple quand un enfant il tombe, la femme elle va peut-être voilà, c'est le cœur de mère aussi qui parle, mais peut-être elle plus compliqué pour elle de gérer, elle va peut-être pleurer, crier, s'alarmer, etc. Tandis que l'homme, il va être très objectif, très pragmatique, il va prendre l'enfant et peut-être appeler l'ambulance ou bah, c'est quelque chose de grave. Voilà, on se calme, on prend un pansement, allez, c'est rien du tout. Et puis on avance. Ça, on le voit tous. Quand on est parents, c'est ces différences-là. Et heureusement, parce que si les deux commencent à pleurer, à hurler, on va pas faire grand-chose. Hein. Non, mais c'est voilà ce que je veux dire. C'est important. Donc, si les deux sont rationnels, bah, c'est pas bon non plus. Parce que oui, l'enfant, il a besoin aussi d'être.
Les gangrènes et personne ne regarde. Épaulé. C'est compliqué. Oui, c'est clair. Oui, oui, clairement.
Non, t'inquiète pas, c'est bon, allez, avance. Et puis, non. C'est pour ça que les deux sont complémentaires. Après, voilà, il y a la question aussi des valeurs. Les valeurs masculines ne sont pas les mêmes que les valeurs féminines. Ce qui est très, 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 très important pour un homme, c'est, il se fixe en général des objectifs. Il aime bien les atteindre seul, vraiment sans demander de l'aide à qui que ce soit. C'est ce qui prouve un peu, entre guillemets, sa force, sa virilité. Tandis que ce qui est très, très important pour une femme, c'est la partie émotionnelle. Elle a bien échangé, elle a bien, elle a besoin de conseils, elle aime beaucoup les relations humaines. Et ça, on le voit, des études ont été faites sur, par exemple, les conversations téléphoniques. Un homme, quand on l'appelle, fallait, c'est dure quelques minutes, quelques secondes. Une femme, la moyenne des conversations téléphoniques, c'est, je crois, de mémoire, 20 minutes, parce que tu peux l'appeler pour un motif en particulier, puis tu vas faire tout le tour de la terre et voilà. Donc ça, c'est ce qui est important pour nous. Donc du coup, là, on parle des valeurs et donc du coup, les attentes éventuellement, les attentes pardon sont différentes parce que les hommes vont attendre beaucoup d'admiration de la part de leur femme. La question de la virilité est très importante pour l'homme. Ce qui peut vraiment tuer un homme, c'est quand sa femme elle lui dit t'es pas un homme. Ça lui tue. Je parle même pas au niveau intime, hein. C'est par exemple t'es pas un homme parce que financièrement t'arrives pas à assumer les choses ou parce que tu sais pas gérer certaines choses. Ça, c'est la pire insulte que vous pouvez dire à un homme. Ça, vous le brisez en mille morceaux et au vrai sens du terme. Vraiment, ça le casse. Tandis qu'une femme, elle va plus attendre de la compréhension vis-à-vis de son homme, de l'écoute, sans forcément trouver une solution à un problème, mais juste, j'ai besoin d'être écoutée, j'ai besoin que tu sois là pour moi. Et d'ailleurs, on voit bien chez les psychologues, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Rares sont les hommes qui viennent faire une démarche individuelle. C'est rare, c'est bien, ça se multiplie, mais c'est quand même quelque chose qui est pas encore très présent. Alors les femmes, ça doit être peut-être aller 80%, 90% des consultations. Je pense que à mon avis, chez l'ensemble des psychologues, en tout cas c'est mon cas à moi et c'est le cas. Je n'ai pas demandé à mes consoeurs, mais ça doit être à mon avis la même chose.
Oui, c'est pas une différence incroyable. C'est du même ordre en fait, à quelques pourcentages près.
Oui. Mais voilà, un homme qui va venir, qui va dire j'ai un problème, j'accepte d'en parler en plus à une femme. C'est vraiment qu'il est au bout du bout, quoi. Tandis qu'une femme, elle a besoin de parler, elle a peut-être quelque chose qui a été difficile pour elle, elle va en parler à une amie, si peut-être elle n'a pas l'écoute nécessaire, ça ne la dérange pas pour elle d'aborder ce sujet-là avec une psychologue.
Avec autrui, en fait.
Exactement. D'accord. Tandis qu'un homme, c'est... des fois, on les voit, les hommes, ils rament pour venir en thérapie, hein. Donc, on le sent.
Et ça, même en thérapie de couple, hein, d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que parfois, même quand il s'agit d'être en thérapie à deux, souvent, c'est la femme qui initie et l'homme, il a du mal à avoir l'intérêt de s'épancher sur son problème, alors que la femme, elle sent bien que c'est un problème qui va la gangréner, elle, de l'intérieur. Donc, elle voit pas du tout l'intérêt de le garder pour elle, en fait.
Exactement. Et l'homme, il dit non, moi, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir le résoudre. Donc, mais certains quand même aujourd'hui font la démarche et ils me contactent et voilà, ils souhaitent. On a un problème, on a besoin d'avoir un regard extérieur sur la situation pour pouvoir avancer. Et il n'y a pas de honte, c'est pas, on va voir un psychologue comme on peut voir un autre professionnel de santé parce qu'on a un souci dans un domaine de notre vie et on va pas voir un psychologue parce qu'on est fou. Certaines personnes là, sont encore malheureusement ancrées sur ces idées-là, alors que c'est loin d'être la réalité. J'ai pas de personnes qui ont des problèmes psychiatriques quand elles viennent en thérapie de couple. Ça peut arriver vraiment en thérapie individuelle, mais c'est vraiment très 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 rare et c'est pas de mon domaine d'activité. Donc ça se scinde très rapidement. Dans ce cas-là, on a une personne adéquate, mais c'est pas on voit parce qu'on a on a un souci et puis on pose des choses et on avance. Donc voilà, ça, je t'ai parlé des valeurs, on a parlé également des attentes. Il y a aussi quelque chose qui est très important dans la manière dont un homme et une femme fonctionnent, c'est qu'un homme, il est très très séquentiel. Et ça, c'est impressionnant, c'est-à-dire qu'il peut faire qu'une chose à la fois. Et ça, toutes les femmes le disent, hein. Et c'est impressionnant, tandis que une femme, elle peut faire, elle est multitâche. Et ça, c'est de se dire, voilà, elle peut... lancer une machine, s'occuper de son enfant, préparer un repas en même temps, et c'est impressionnant, 3-4 choses en même temps, sans souci. Tandis qu'un homme, non, c'est à la limite, s'il doit faire des pâtes, il va regarder l'eau bouillir, mais c'est une réalité. Enfin, je veux dire, c'est, voilà, c'est
que, sans ça, jugement.
Ouais. Bien sûr. Ouais. Ça là. Donc, c'est important. Donc voilà, ça, c'est quelques petites différences, qui déjà permettent aussi de se dire, voilà, l'autre, il est différent de moi. Je dois l'accepter. Et après, ça ne veut pas dire que je dois nier mes besoins, mes attentes, mais en tout cas, c'est important d'avoir ça en tête. Il y a un très bon livre, hein. Ça s'appelle « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus », qui a vraiment mis en avant ces différences-là. Donc, moi, j'invite aux auditeurs de le lire, parce que je trouve qu'il est très, très, très bien fait. Il y a également une pièce de théâtre, un spectacle qui a été fait également. Vous trouvez ça sur Internet, il est en écoute libre, qui parle de « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». C'est vraiment une pièce de théâtre où vous allez rigoler. Regardez-le avec votre partenaire ou si vous êtes célibataire, regardez-le. Et ça vous permet vraiment de mettre en avant certaines différences de manière vraiment rigolote, quoi.
Bon, super. Je te remercie beaucoup, Farida, parce que, enfin, on a bien conscience, hein, toi comme moi, et je leur précise pour les personnes qui écoutent, que tout le monde est différent et que on peut avoir une énergie masculine quand on est une femme. On peut avoir des choses. Moi, par exemple, hein, je suis une femme et je ne suis pas du tout multitâche, et c'est pas grave. Je l'accepte. Je suis ainsi. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on a des spécificités en nous qu'il faut pas. Qu'il faut complètement nier le fait qu'il n'y ait pas des comme tu le dis, des systèmes de valeurs, des réalités qui sont liées à nos genres respectifs. Ne faisons pas ça. Essayons vraiment de réconcilier les deux en se disant, acceptons qu'on ait des différences qu'Aspartala lui-même a mis à insuffler en chacun d'entre nous, et tout en se connaissant suffisamment pour nuancer le propos et l'adapter à chaque personne. Mais je te remercie vraiment beaucoup d'avoir insisté. C'est important.
Bah, je t'en prie, c'est vraiment la notion de complémentarité, parce que si l'autre fonctionnait comme nous dans chaque circonstance de la vie, dans chaque épreuve de la vie, ça serait pas sain. Il faut un équilibre. Des fois un peu de raison, des fois un peu d'émotionnel. Il faut un mélange des deux. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais si on est tous les mêmes, bah, Dieu nous aurait pas créés différents. On s'ennuierait d'ailleurs, sincèrement.
Bon. Bah écoute, ce sera le mot de la fin. Je te remercie vraiment beaucoup, Farida. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui souhaitent te contacter, en savoir un peu plus sur ton actualité, demander un rendez-vous avec toi?
Alors moi, j'ai un site internet qui s'appelle www.lecoledumariage.com. Donc c'est un site qui cristallise certaines vidéos que j'ai pu faire, certains articles également du coup sur la vie de couple, sur le divorce. J'ai fait quelques émissions de radio. Je pense qu'on peut retrouver ça également sur internet. J'ai été animatrice radio il y a quelques années sur Radio France Maghreb et Beurre FM. J'ai pu faire quelques émissions là-dessus. Et puis là aujourd'hui, je concentre principalement mon temps et à mes consultations au cabinet. Donc, j'ai un cabinet qui est situé à Clichy-la-Garenne dans le 92, où si les personnes elles souhaitent me contacter pour un échange individuel ou en couple, elles peuvent me joindre au 06 21 05 26 42 ou également par email fkaced@gmail.com.
Voilà. Super. Merci Farida, c'était très clair. Je ne doute pas que beaucoup d'entre nous auront à cœur de te demander des informations complémentaires, parce que je t'ai trouvé très claire, très dynamique, très ouverte, et en même temps, je pense que tu as répondu à beaucoup de questions que des personnes célibataires se posent, ou en tout cas se posaient. Merci beaucoup Farida pour ton temps, pour ton énergie et pour tous tes enseignements.
Je te remercie pour l'invitation, Medina, et puis au plaisir.
Avec grand plaisir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes, et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème, abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur devoir. Qu'Allah Azzawajal vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.